You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce 16 mai. En Australie, le Premier ministre et le chef de l'opposition fédérale présentent leur dernier grand discours avant les élections de samedi prochain. L'appel de Christchurch pour que Facebook limite l'utilisation des vidéos en direct. Et la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern est à Paris pour cet appel. Un projet de loi controversé sur l'avortement signé aux États-Unis. Le Premier ministre australien Scott Morrison demande aux Australiens de ne pas opter pour le changement lors de son dernier discours important sur la campagne électorale. Scott Morrison a commencé sa journée dans les marchés de Flemington, dans la banlieue ouest de Sydney, dans l'électorat clé de Reid, que le Parti libéral tente de retenir malgré le départ à la retraite du député Craig Laundie, un proche de l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull. Scott Morrison est à Canberra en ce moment au National Press Club, où il présente un discours sur le thème de la croissance économique. Il déclare que l'Australie ne peut pas se permettre le programme de l'opposition. Le sénateur de la coalition Simon Birmingham sur Sky News déclare que de nombreux groupes de la communauté vont souffrir des politiques de l'opposition.
First home buyers, retirees, people going out to work, hard-working Australians, all of them face higher taxes under Bill Shorten. It's a strong policy contrast. We're happy to say taxes sit at the centre of it because Bill Shorten's proposing costs and taxes that Australians just can't afford.
Le libéral Simon Birmingham sur Sky News. Le chef de l'opposition Bill Shorten est à Blacktown ce jeudi dans l'ouest de Sydney, au même endroit où en 1972 l'ancien chef du Labour Gough Whitlam a présenté son discours avant d'être élu Premier ministre, mettant fin à 23 ans de gouvernement de la coalition libérale. Bill Shorten continue à parler du changement climatique, de son équipe soudée et stable comparée à celle du gouvernement qui, selon lui, est toujours instable.
There is a mood for change right across Australia. The government has run out of ideas, it's rapidly running out of time. People want to see real action on climate. They want to see the pensioners get the dental care they so richly deserve. They want the cuts to schools and hospitals reversed. They want to end the chaos in Canberra. There is a mood for change, and we believe that Labor offers the best chance for stability and real action on the issues which affect working and middle class people.
Bill Shorten a aussi déclaré qu'il se mettrait immédiatement en contact avec la Chine s'il devenait Premier ministre. Il a déclaré qu'une meilleure relation avec la Chine était dans l'intérêt de l'Australie. Il a ajouté que si le Labour est élu, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, sera chargée de se rendre en Chine le plus rapidement possible. La guerre des mots continue entre le One Nation de Pauline Hanson et le United Australia Party de Clive Palmer. Pauline Hanson accuse Clive Palmer de n'avoir aucun intérêt pour l'avenir du pays et qu'il n'a aucune solution pour résoudre les problèmes économiques du pays. L'appel de Christchurch pour que Facebook limite l'utilisation des vidéos en direct et la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern est à Paris pour cet appel de Christchurch reçu par le président français Emmanuel Macron. Madame Ardern déclare vouloir empêcher non seulement la diffusion en direct de la violence, mais également la cause de la violence.
Ultimately, we want to be in a position to prevent harm in the first place, to make sure that lives aren't lost. And that's why contained within the text, we also talk about the role that governments have to try and eliminate radicalization and eliminate ideology of hate. And those are much harder questions, but that ultimately, I think, is what the Christchurch test is. Can we stop the broadcasting, but actually can we stop the hate in itself?
Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, 26 pays et géants d'Internet ont signé l'appel de Christchurch lancé à l'Élysée. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays était prêt à aider les États-Unis et l'Europe à parvenir à un accord avec l'Iran sur ses ambitions nucléaires, mais la Russie ne peut pas sauver la situation elle seule. L'Iran a officiellement mis fin à certains de ses engagements dans le cadre de l'accord de 2015 sur le nucléaire. La Russie a déjà blâmé les États-Unis pour cette situation après que le président américain Donald Trump ait décidé que son pays arrête cet accord nucléaire. La Russie est l'un des principaux alliés de l'Iran.
Посмотрим, что будет происходить. Россия не пожарная команда, мы не можем все это подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит.
We will look at how the situation develops. Russia is not a fire brigade. We cannot save just anything which does not fully depend on us. We have played our role. We are ready to play on this positive role. But it does not only depend on us. It depends on all the players, including the United States, European countries, and Iran.
Le président russe Vladimir Poutine, l'armée syrienne et ses alliés poursuivent leur offensive contre les forces de Daesh dans les provinces d'Idleb et de Hama. Précision, Paul Halife pour Radio France Internationale.
L'armée syrienne et ses alliés ont poursuivi ce mercredi leur progression au nord de Hama et au sud d'Idleb après un intense pilonnage à l'artillerie et des raids aériens auxquels ont pris part des avions russes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a estimé que mercredi était la journée la plus violente depuis le début de l'offensive il y a deux semaines, dénombrant le tir de 400 roquettes, de centaines d'obus et de nombreux raids aériens. Après ce déluge de feu, les troupes gouvernementales syriennes ont enfoncé les lignes de défense des djihadistes, prenant trois nouvelles localités au nord de Hama. Cette avancée les place au pied du massif montagneux de Jabal Zawi à Idleb, l'un des premiers fiefs de l'insurrection qui a éclaté en Syrie en 2011. Les combats se sont déroulés à proximité de l'armée turque qui déploie des postes d'observation sur ce qui était censé être une zone démilitarisée, conformément à l'accord de trêve conclu entre Moscou et Ankara en septembre dernier. Depuis le début de l'offensive de l'armée syrienne avec l'appui de l'aviation russe le 30 avril, l'Observatoire des droits de l'homme a établi un bilan de 435 morts, dont 150 civils.
Paul Halife pour RFI. Une attaque a visé l'armée nigérienne mardi soir à Beliberi, près de la frontière avec le Mali. 28 militaires ont été tués, c'est un bilan provisoire. Précision de Moussa Kaka pour RFI.
Ce sont des hommes de la 112e compagnie spéciale d'intervention basée à Walam et leur colonne d'au moins 8 véhicules qui sont tombés dans une embuscade tendue par des terroristes. Le get-happens a eu lieu à 45 km au nord-ouest du village de Mangaizé, non loin de Tongo Tongo et de la frontière malienne. Les 52 soldats partis à la poursuite des djihadistes qui ont tenté d'attaquer la prison de Koutoukale patrouillaient près du village de Baliberi quand un de leurs véhicules a sauté sur une mine. La violente explosion et les tirs nourris de l'ennemi n'ont laissé aucune chance aux soldats. Dans le feu de l'action, trois avions de reconnaissance US Air, un Français, un Nigérien et celui des Américains qui est armé, ont survolé à plusieurs reprises la zone de combat. Ils sont rentrés sur leur base à Niamey sans avoir vu des mouvements djihadistes au sol. Selon plusieurs sources, les djihadistes n'ont pas eu le temps de franchir la frontière malienne. Des complicités locales les auraient cachés après leur forfait. Malgré les conditions hostiles et les risques de tomber dans d'autres embuscades, les premiers renforts terrestres sont arrivés sur le site à la tombée de la nuit. Les recherches engagées ont permis de retrouver trois véhicules appartenant aux soldats nigériens. Un seul véhicule manque à l'appel, celui de l'officier chef de la mission.
Et on reviendra largement sur l'actualité africaine tout à l'heure dans l'émission après le journal des sports. En France, 55 minutes de débat télévisé hier entre les têtes de liste Nathalie Loiseau pour la majorité et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Les deux partis en tête dans les sondages. Reportage, Julien Chavannes pour RFI.
Le duel a commencé dès la première minute.
Après deux ans et demi de gouvernance d'Emmanuel Macron, il est temps de faire le bilan. Les Français qui sont en colère et qui sont descendus nombreux dans les rues du pays doivent profiter désormais de ces élections européennes pour se faire entendre.
Je crois que ce sera aussi l'occasion de faire le bilan de ce que le Front National a fait depuis cinq ans au Parlement européen.
Face à un Jordan Bardella offensif, Nathalie Loiseau, tout en retenue, joue l'experte.
Vous avez dû vraiment passer très peu de temps au Parlement européen, mais c'est normal, vous y avez passé quatre mois.
Soyez pas méprisant.
Non, c'est pas
mais vous voyez, c'est ça qui énerve les Français. Vous, c'est écoutez, le mépris dont font preuve les macronistes à chaque fois qu'on est en désaccord avec vous. Mais soyez pas méprisants.
Travailleurs détachés, agriculture, tous les opposent. Et les attaques ne portent pas que sur le fond, même quand il s'agit d'immigration ou de localisme.
Arrêtez les fake news, madame. C'est vous, normalement, le chasseur de fake news dans la République en marche.
C'est vrai que vous avez une certaine spécialité et je n'ai pas envie d'entrer en compétition avec vous. Je vous rassure.
Nathalie Loiseau et Jordan Bardella étaient là pour donner le plus de de coups pour souligner au maximum leurs différences. Les deux meilleurs ennemis de cette campagne avaient aussi le même objectif pour arriver premier le 26 mai, faire de l'autre un épouvantail.
Vous voulez sortir de l'Union européenne. Vous nous avez dit...
Mais je vous ai déjà dit non.
Reportage de Julien Chavanne pour RFI. La première ministre britannique Theresa May se dit convaincue que les politiciens britanniques reconnaîtront leur devoir de promouvoir le Brexit lorsqu'elle présentera son accord devant le Parlement le mois prochain. Cela en dépit de quelques députés pro-Brexit au sein de son propre parti qui ont déclaré qu'ils voteraient à nouveau contre l'accord. L'accord de Theresa May sur le Brexit a maintenant été rejeté à 3 reprises par le Parlement. La Première ministre a déclaré que son accord était le seul moyen dont dispose actuellement la Grande-Bretagne pour sortir de l'Union européenne.
That is the piece of legislation that ensures that we will leave the European Union. And I'm sure when MPs come to look at that and they come to vote for that, they will recognise that we have a duty in Parliament to deliver on the result of the referendum and deliver Brexit.
La première ministre britannique Theresa May. Aux États-Unis, en Alabama, les élus de cet État ont adopté mardi le projet de loi sur l'avortement le plus restrictif du pays. La gouverneure de l'État, Kay Ivey, ne se fait pas de souci d'une éventuelle contestation de la loi, même devant la plus haute juridiction des États-Unis.
You certainly cannot deter your efforts to protect the unborn because of costs. Even if it means going to state to the United States Supreme Court.
Et maintenant le reportage de Anne Corpé pour RFI.
Life is a gift of our creator.
La vie est un cadeau de notre Créateur et nous devons tout faire pour la protéger. C'est par ces quelques mots que le sénateur républicain Clyde Chambliss justifie la loi qu'il a portée devant le Parlement d'Alabama. Le texte interdit l'interruption volontaire de grossesse, sauf quand la santé de la mère est en danger. C'est la loi la plus restrictive du pays. Ce mercredi, la quasi-totalité des candidats aux primaires démocrates ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'avenir du droit à l'avortement aux États-Unis. C'est le cas de Kirsten Gillibrand, sénatrice de New York.
C'est une insulte. Ce n'est rien de moins qu'une attaque contre les droits fondamentaux des femmes, contre leurs droits civiques. C'est un texte contre lequel les femmes américaines vont devoir se battre de toutes leurs forces.
La CLU, une association de défense des droits civiques, a décidé de contester la loi devant la justice. Les opposants à l'avortement espèrent, eux, que l'affaire ira jusqu'à la Cour suprême et qu'in fine, la plus haute instance judiciaire du pays, désormais dominée par des juges conservateur, abolira le droit à l'interruption volontaire de grossesse au niveau fédéral.
Voilà, c'était le reportage de Anne Corpé pour RFI. Le Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture de la 72e édition, a eu lieu mardi soir. Reportage, Elisabeth Le Quéré, RFI.
Nous déclarons
Declaramos
ouvert
abierto
le 72e Festival international du film de Cannes.
El 72º Festival international de cine de Cannes.
C'est fait. Un duo de charme pour le festival de cinéma le plus prestigieux du monde. La française Charlotte Gainsbourg et l'espagnol Javier Bardem. Ce dernier acteur fétiche d'Alejandro González Iñárritu n'a d'ailleurs pas manqué de rendre hommage sur scène au cinéaste mexicain qui cette année préside le jury. Cette soirée d'ouverture plutôt classique, sans rater mais sans aspérité non plus, a été menée tambour battant par l'acteur Edouard Baird, avec un hommage largement appuyé au président du jury et à ses films, un aperçu des 21 longs métrages en compétition, et puis un clin d'œil sur scène, cette chaise vide au nom d'Agnès Varda, et une ritournelle de Michel Legrand chantée par Angèle pour célébrer la cinéaste disparue en mars dernier à l'âge de 90 ans.
Elisabeth Le Quéré pour RFI au Festival de Cannes. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie. Perth maximal de 18 degrés. Adélaïde 21, Melbourne 18, Hobart 18 également. Canberra 18, Sydney 23, Brisbane 25, Cairns 28, Darwin 33. Et à Alice Springs maximal de 26 degrés. Un rappel des grands titres de ce 16 mai. En Australie, le Premier ministre et le chef de l'opposition fédérale présentent leur dernier grand discours avant les élections de samedi prochain. L'appel de Christchurch pour que Facebook limite l'utilisation des vidéos en direct, et la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern est à Paris, reçue par Emmanuel Macron pour cet appel. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.